Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. J'ai appris tout récemment que histoire ou historia, étymologiquement, cela veut dire enquête. Alors effectivement, tout cela prend son sens. Quand l'on fait une découverte, que ce soit une momie, un tombeau, des ruines, une chapelle, que sais-je, un monument, eh bien il y a enquête. On veut savoir, on veut comprendre. Alors le passé et le présent sont toujours très liés. Est-ce que l'on pourrait dire que le présent, c'est la modernité du passé, mais le passé n'est jamais loin? Il n'y a rien dans le néant, rien dans le vide. Tout est lié, chaque humain est lié par une histoire, un ADN, par un passé commun, par une histoire commune. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui l'illustre parfaitement. Et pour en parler, eh bien, un spécialiste de cette histoire, de cette enquête. Bonjour Pierre Abou.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour délivrez-vous ces deux ailes pour votre livre aux éditions La Bisquine, La Riviera, Les Bâtisseurs. Alors, tout d'abord, eh bien, on va parler un petit peu de vous. Qui est Monsieur Pierre Abou et que fait-il ?
Alors, je vais commencer par récuser le terme de spécialiste que vous m'avez attribué généreusement.
Oui.
En réalité, je suis un cadre de l'industrie, et donc ma carrière ne m'a pas mis en présence des recherches historiques avant une rencontre tout à fait fortuite, mm-hmm. et que j'explique dans le livre sur lequel on reviendra.
Alors, moi, j'ai pris ce livre comme une véritable enquête. C'est très noté, c'est très bien documenté. On y lit une histoire tout à fait étonnante, passionnante, parce que je vous l'avoue, moi, c'est une page de notre histoire que je ne connaissais pas et j'espère la faire découvrir à nos auditrices et auditeurs. Alors, tout débute en automne 2016. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous avez eu vent de cette histoire? Comment cela s'est-il passé pour vous? Comment avez-vous pris cette face de l'histoire et cette face de l'histoire à bras-le-corps?
Eh bien, voilà, je suis niçois d'adoption.
Oui.
Et j'ai reçu des amis de longue date, dont une dame qui s'appelait Veillon, qui s'appelle Veillon de son nom de femme,
oui.
de naissance.
De naissance, oui.
Et qui m'a dit un jour, en admirant la baie des Anges depuis notre terrasse, sais-tu que c'est grâce à mon ancêtre que Nice est française? Alors, je lui ai rappelé qu'elle était suisse, et donc elle m'a dit oui, mais effectivement, j'ai eu un ancêtre qui a joué un rôle déterminant lors de la première période française, qui est peu connue, c'est vrai.
Et son ancêtre, c'est Gabriel Isaac Veillon.
C'est mon ancêtre, Gabriel Isaac Veillon.
Veillon, oui.
Alors, je dois dire que j'étais quand même assez sceptique. Et puis, un jour, dans mes pérégrinations dans Nice, j'ai vu qu'il y avait une rue Veillon avec un député niçois, donc il n'était pas question que de Suisse, dont les dates étaient 1733-1817, donc ça paraissait cohérent. J'ai fait quelques recherches, et en fait, il y avait très peu de choses dans l'historiographie, au contraire, même la plupart des auteurs s'étonnaient de la présence d'un négociant suisse,
oui.
Parmi la délégation envoyé par Nice, qui se constituait simplement de lui-même et de Jean-Dominique Blanqui, oui. qui lui est un peu plus,
était italien,
un peu plus connu.
Philosophe italien, bien évidemment.
Oui, c'est ça. Et c'est le père. Alors, le malheureux, sa notoriété a pâti du prestige de ses deux fils, qui avaient une caractéristique, c'est que c'était d'éminents penseurs du 19e siècle, mais complètement opposé, puisque Auguste Blanqui, bien connu, est un des grands penseurs socialistes du 19e siècle,
oui.
Et Adolphe Blanqui, un grand penseur libéral qui a créé, avec Jean-Baptiste Sel, la première école de commerce en France.
En France, oui.
Voilà, donc ça c'est Jean-Dominique Blanqui. Mmh. Alors, Veillon, bon, en fait, je n'en savais pas grand-chose. Mmh. Et il est arrivé ce que vous avez relevé dans le livre, c'est-à-dire qu'en 2016, on a trouvé dans une des maisons de la famille Veillon.
Oui. Maison du XVIIIe siècle. Maison du
voilà,
18e siècle.
Voilà, c'est ça, dans le canton de Vaud, à Bex. Alors on prononce Baix, bon. Des papiers de cette époque, les archives du canton de Vaud en ont profité pour rassembler tout ce qui concernait cette famille Veillon.
Oui.
Et donc c'est à ce moment-là que mon ami m'a dit, elle m'a signalé ce fait. Elle s'est rendue aux archives pour faire des photographies. Et quand j'ai reçu ces premiers clichés, j'ai pris le premier jour de congé que je pouvais prendre et le train pour Lausanne. Et je me suis rendu au centre des archives cantonales du canton de Vaud.
Où avaient été remis les documents ?
Voilà, où avaient été remis les documents et surtout regroupés ce qui se trouvait ici, là, ailleurs. Et ça donnait une vue... des activités de cette famille sur deux générations, en fait,
oui.
À Nice.
Donc, on suppose bien évidemment que Gabriel Isaac Veillon a laissé ces documents-là dans cette maison du XVIIIe siècle.
Alors, à la limite, pas forcément, mais en tout cas, ces documents étaient dans... différentes maisons.
Oui, dans le mur, c'est-à-dire qu'en abattant un mur,
voilà. Mais il y avait d'autres sources de documents. Ce qui est remarquable, en tout cas, c'est qu'ils étaient tous en Suisse.
Oui.
C'est-à-dire que quand la famille Veillon, quand son fils en fait est rentré de Nice en 1808, il a emmené toutes les archives. Commercial et personnel de la présence de ces négociants suisses dans la ville de Nice.
Oui. Alors, ce que l'on ne sait pas forcément, les Niçois sans doute le savent, mais ce que ne savent peut-être pas nos auditrices et auditeurs, c'est que Nice a été français pendant une vingtaine d'années, hein, 1793-1814 approximativement, et Nice est redevenu française en 1860. On s'aperçoit que on rentre là, on est en plein dans la période révolutionnaire française 1792. Et ce qui va être étonnant, alors après, il va falloir en discuter pour en connaître les raisons véritables, les analyser, mais nos deux protagonistes, c'est-à-dire Jean-Dominique Blanqui et Gabriel Isaac Veillon, vont aller faire la demande que Nice soit rattachée à la France. Devant le comité qui était en train de juger Louis XVI.
Alors, juste quelques remarques. Quand vous dites les Niçois le savent, l'immense majorité des Niçois
ne le savent pas. D'accord.
Et vous l'aurez remarqué à la lecture de mon livre, c'est une histoire méconnue, mais c'est aussi l'histoire d'une amnésie.
Oui.
C'est-à-dire comment et pourquoi s'est construit dans la mémoire officielle l'oubli de ces 20 années qui sont absolument décisives parce qu'effectivement, il y a eu un échange, un traité entre Napoléon III et Victor Emmanuel II en 1860 qui a conduit à l'annexion définitive du comté de Nice qui est devenu ou redevenu les Alpes-Maritimes.
Oui.
Cette période-là, on n'en parle pas.
Alors, on n'en parle pas de manière... on le veut pour des raisons économiques, humaines, ou on passe des choses sous silence pour le compte de l'histoire.
Alors, un des grands historiens locaux, M. Botin, reconnaît qu'on a jeté un voile pudique sur cette histoire.
Pudique,
alors,
oui.
Pourquoi le lecteur le, le découvrira, oui. Mais si vous voulez, cette histoire, elle était beaucoup moins flatteuse, oui, pour l'État jacobin,
oui,
que celle de 1860, où il y a eu une négociation internationale, un traité,
oui,
et un référendum qui... Oui. Qui a été organisé dans les conditions...
Oui, qui était quand même beaucoup plus sympathique et beaucoup plus valeureux, dirais-je.
Voilà. Mm. Alors, si vous voulez, ce qui s'est passé entre 1792 et 1814 est beaucoup plus sulfureux.
Oui.
D'abord, le mécanisme qui a conduit à l'invasion du comté de Nice par l'armée républicaine est extrêmement chaotique.
Oui.
C'est une série de décisions irréfléchies de part et d'autre. Certainement que quand l'armée française a franchi le Var le 28 septembre
1792,
oui. Ouais, c'était pas pour transformer les habitants en français, comme ça a été dit après, mais c'était simplement pour adopter une meilleure position militaire défensive.
C'est à des fins stratégiques, hein, purement militaires et stratégiques.
Absolument, voilà. Alors, ça s'est très vite mal passé, parce que l'armée révolutionnaire de l'an 2, on sait tous qu'elle était démunie, que son recrutement était aléatoire, pas forcément fait des meilleurs éléments de la société, et qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses. Et ça a été, le fait de faire passer en plusieurs vagues 10 000 hommes de l'autre côté du Var sans pratiquement de chaîne logistique ou de ressources, les a conduits à piller allègrement, en particulier la vallée de la Vésubie,
oui,
qui est une des rivières des Alpes-Maritimes.
Oui.
Donc ça partait très mal. La mission de Blanqui et Veillon, je l'explique dans mon livre, en réalité n'avait aucune base populaire, puisque
non,
c'était un comité de négociants l'avait désigné et qui s'était fait adouber par un club jacobin qui lui-même était constitué de Français ou ou de militaires français.
D'ailleurs leur assemblage, pourrait dire, est assez curieux, du reste.
Alors, il est curieux. En réalité, il est extrêmement pensé. Alors, dans ce comité, il y avait essentiellement le cercle professionnel et amical, mais surtout professionnel, de Gabriel Isaac Veillon.
Oui.
Et en fait, Jean-Dominique Blanqui était le seul intellectuel de ce comité d'une vingtaine de personnes.
Mmh. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que il faut bien préciser que tout est réel, hein, tout est authentique, les faits, les gestes, rien n'est romancé, hein, tout est rapporté très fidèlement. Alors je dirais, c'est une enquête, puisqu'on disait que l'histoire étymologiquement, ça veut dire enquête. Il y a des annotations, tout est bien précisé, il y a de très jolies phrases d'ailleurs au départ. J'aime beaucoup cette phrase, alors peut-être que je ne vais pas la retranscrire fidèlement, mais que chaque époque rêve de la suivante. Moi, j'ai beaucoup aimé...
Une citation de Michelet.
De Michelet, de Claude Michelet, oui. Pierre Michelet. Pierre Michelet.
C'est une citation de Michelet qui dit « Chaque époque rêve la suivante ».
Rêve la suivante. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Alors, ça s'applique très bien à cette histoire-là, puisque cette période a été chaotique, mais le rêve d'un pays de Nice trouvant une place harmonieuse dans la France a fini par se réaliser.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui va se réaliser là tout de suite, immédiatement et sans délai, eh bien, c'est une petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après.
D'accord.
Viva, viva. Nice à la belle. giù, canterai lì in montagna, luce un tramite con il fiume di campagna, luce un su nel do.
Nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec M. Pierre Abou pour son ouvrage Riviera les bâtisseurs aux éditions de la Biskine. Alors nous parlions de nos deux personnages, héros entre guillemets malgré eux, de Jean-Dominique Blanqui et Gabriel Isaac Veillon, donc qui sont allés avec leurs documents devant cette assemblée pour obtenir leur attachement de Nice à la France. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'époque, parce que 1792, on est en pleine révolution, Nice va devenir français durant 20 ans jusqu'en 1814, c'est-à-dire on est en plein premier empire, hein, puisque Napoléon Ier est encore empereur, puisque je vous rappelle qu'il est décédé en 1821. Waterloo n'est plus très loin, mais il est encore empereur. Est-ce que, on le laissera découvrir aux auditeurs, mais malgré tout, est-ce que cela, entre cette révolution et l'avènement de l'empire, va avoir des conséquences particulières sur l'annexion de Nice à la France ?
Je reviens. Michelet, vous deviez penser à Jules Michelet.
Oui, Jules Michelet, oui.
Oui. Alors, c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs.
Il y a Claude Michelet, alors, l'écrivain, qui est très bien aussi, et là, c'est Jules Michelet.
C'est ça, non, mais, voilà. Alors, en réalité, Nice, alors c'est un peu mieux su, mais pas beaucoup.
Oui.
Pas beaucoup plus. Nice est le berceau et le point de départ de la légende napoléonienne.
Oui, tout à fait.
Alors, pourquoi ? Parce que donc Nice a été envahie en 1792, mmh. et après, pendant les 4 ans qui ont suivi, il y a eu une guerre de position entre les Piémontais qui tenaient un certain nombre de points clés dans la montagne,
alors, il faut rappeler,
et les Français qui étaient au bord de la mer,
voilà.
et qui envoyaient des troupes régulièrement dans la montagne, ça ne débouchait sur rien. Mmh. Les lignes de front se sont stabilisées, et Bonaparte qui se cherchait un emploi dans les années 1795, au début de 1796,
oui.
avait, à 26 ans, conçu un plan pour non pas continuer cette guerre de position, mm-hmm. mais rentrer dans la République de Gênes et attaquer les Piémontais qui étaient renforcés par des Autrichiens. Mm-hmm. Et il a réussi à faire adopter ce plan par Barras, alors par le directoire, mmh. qui venait de se mettre en place.
Oui.
Et il arrive à Nice en avril 1796.
Oui.
Et en 15 jours, il va mettre à exécution de façon fulgurante ce plan, et il obtiendra, alors cette fois-ci, la reconnaissance par le roi de Piémont-Sardaigne, Victor Amédée III,
oui.
de la souveraineté française sur Nice et sur la Savoie.
Mm-hmm.
Donc c'est la première campagne d'Italie, mais ce volet-là a été très vite traité par Bonaparte. Mm. Après, il lui a fallu un peu plus de temps pour conquérir les plaines d'Italie, oui. du Nord, parce que là, l'adversaire n'était plus piémontais, il était autrichien.
Tout à fait.
était un peu plus aguerri.
Alors, il faut,
Donc Nice fait partie, dès le début, de la légende napoléonienne, oui. De cette légende.
Alors, il faut aussi préciser que Victor Amédée III, à ce moment-là, n'est pas en très bonne posture au niveau de sa royauté. Il faut le préciser.
Alors, en fait, il s'est mis lui-même dans les embêtements.
Oui.
Au moment, c'est expliqué dans le livre,
oui.
Il a créé un incident diplomatique en récusant un ambassadeur de France envoyé par la Convention.
Oui.
D'ailleurs, il s'est trompé, puisqu'en réalité, il pensait que c'était un jacobin, et en réalité, c'était quelqu'un qui jouait double jeu avec Louis XVI.
Oui.
Donc,
oui.
Et il a provoqué une crise qui s'est avérée catastrophique pour le royaume de Piémont-Sardaigne, puisque il en a résulté l'invasion de deux territoires importants, qui étaient la Savoie et Nice.
La Savoie et Nice, oui.
Ouais. Et donc, comme j'expliquais, en fait, ses motivations étaient subjectives.
Mmh.
Il se trouve qu'il était le beau-père de deux futurs rois de France, qui étaient deux frères de Louis XVI,
oui.
Le futur Louis XVIII et le futur Charles X.
Charles X, oui.
Et il s'estimait investi d'une mission de rétablissement de la royauté je dirais plus généralement de la civilisation en France, enfin dans la conception qu'il s'en faisait.
Oui.
Et en fait c'était un calcul exécrable puisqu'il a conduit à entraîner son royaume dans la guerre qui n'avait absolument aucun intérêt à s'y trouver.
À s'y trouver, oui. Alors, votre livre est fort bien fait, je dirais, dans la construction. C'est en cinq parties. Chaque partie a sa vie, sa propre enquête et histoire, dirais-je, ses propres personnages. Je le disais, c'est fort bien noté, fort bien détaillé. J'ai senti que, vous allez sans doute, j'espère, me pardonner l'expression, vous êtes régalé dans cette enquête, dans cette histoire.
Alors, au début, pas tellement, parce que, en fait, il m'a fallu. Elle donne une impression d'harmonie, mais.
On sent beaucoup de complexité. Oui, on sent beaucoup de complexité aussi, quand même, dans la démarche. Hein.
Alors, oui. Alors, en réalité, j'ignorais toute cette complexité.
Oui.
Je l'ai rencontrée. Et effectivement, tout repose sur le chiffre 5, qui est la solution que j'ai trouvée pour mettre de l'ordre dans tout cela.
Alors, oui.
Le chiffre 5, c'est d'abord c'est 5 temps de l'histoire.
Oui. Oui.
L'Ancien Régime, la Convention, le Consulat,
le Directoire,
le Directoire, l'Empire.
Mmh.
C'est 5 personnages, alors qui ont chacun, qui dominent chacun une des parties.
Oui.
La première partie, l'invasion, c'est le général d'Anselme qui a conduit les armées françaises de l'autre côté du Var. Ensuite, il y a Gabriel Isaac Veillon,
oui.
Avec un long flashback sur toute la période qui a précédé la Révolution dans le comté de Nice, et je dirais plus généralement en Europe.
Mmh.
Et il y a bien sûr la partie centrale, c'est Jean-Dominique Blanqui qui porte avec son art oratoire cette demande d'annexion.
La demande d'annexion, oui. Oui.
Et puis ensuite, eh bien effectivement, il y a deux personnages. Il y a Barras qui occupe la quatrième partie,
oui.
Et Masséna,
oui.
Qui est finalement d'ailleurs le seul pratiquement qui a été retenu par la célébration officielle pour cette période là,
oui.
Et donc il fait l'objet d'une signalétique dans Nice qui est importante aujourd'hui, avec une classe Masséna, un lycée Masséna, etc.
Alors, quand on sort...
Dernier point, en fait, ça correspond aussi au chiffre 5 qui définit le drame classique. Il y a beaucoup d'opéras qui sont, construits sur cette mécanique classique de l'exposition, du premier rebondissement.
Scène 4, acte 2, scène 5, ouais, acte 5.
Ça, etc. Donc, et donc finalement, le chiffre 5 donne de l'ordre à cet ensemble d'événements qui peuvent paraître en manquer.
D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, dans les pièces de Molière, on retrouve beaucoup le chiffre 5. Voilà.
Ah oui, ben d'accord. Corneille, Racine, le drame classique français, c'est
l'acte
5.
En cinq parties.
Et là, ça tombe bien.
Ça tombe très bien.
Ça tombe bien, ça finit très mal.
Puisque les
Alpes-Maritimes disparaissent à la fin, donc c'est tout à fait conforme à un drame classique, puisque la tragédie s'accomplit au cinquième acte.
Tout à fait. Alors, quand on sort d'un tel livre, d'une telle histoire, on a envie, bien sûr, d'en parler, de faire vivre le livre. Avez-vous d'autres projets ? Avez-vous d'autres choses comme ça, sous la main, que nous ne connaissons pas ? Avez-vous d'autres projets d'écriture ?
Le livre s'appelle « Riviera française », le volume que vous avez en main... c'est simplement le premier
tome
qui s'arrête effectivement avec la défaite de 1814 et le retrait de la France.
De la France, oui.
Le deuxième volume ira jusqu'à l'annexion de 1860. Et je dirais la décennie qui l'a suivi, qui a stabilisé la présence française difficilement. Donc... avec ces deux volumes, on aura...
L'intégralité de l'histoire de Nice et de la France.
Alors, on aura une vue sur les deux annexions françaises.
Oui.
L'intégralité, il s'est passé encore après beaucoup de choses.
Beaucoup de choses.
Et encore aujourd'hui.
Oui. Mais l'histoire est une éternelle continuité, un éternel recommencement, et le fil ne s'interrompt jamais. C'est une constante enquête, l'histoire, n'est-ce pas ?
Oui, et je pense que ces événements qui paraissent lointains ont des conséquences dans l'inconscient des peuples, en réalité.
Bien sûr.
Un traumatisme refoulé... laisse des traces dans l'inconscient, ça vaut pour les individus, je pense que ça doit valoir aussi
pour les événements,
pour les populations. Et le moins qu'on puisse faire, c'est au moins de rétablir les faits.
Les faits et la vérité, rien que la vérité, bien évidemment. Oui.
Alors la vérité des faits, après, comme vous avez pu le remarquer, je me suis abstenu de tout jugement
de valeur
par rapport à des périodes qui, faut bien le reconnaître, étaient quand même d'une très grande brutalité.
C'est vrai, très grande violence.
De part et d'autre.
Oui, tout à fait. En tout cas, j'enjoins chacun de lire ce livre, La Riviera, les bâtisseurs, donc le tome 1, 1792-1814, aux éditions de La Bisquine. J'avais le plaisir de recevoir M. Pierre Abou. Eh bien, nous attendrons la suite avec impatience jusqu'en 1860, où Nice est devenue définitivement française, avec un traité, dirais-je, plus calme, dans des époques moins houleuses. Mais notre France a connu et connaît toujours... Le peuple français est un peuple à sang chaud et a toujours des récriminations et des choses à dire dans notre histoire, n'est-ce pas ?
Le peuple français a quand même une caractéristique, je crois que tout le monde lui reconnaît, c'est d'être très réticent à la réforme et de préférer les ruptures. On le déplore ou s'en réjouit, au niveau du constat...
Oui, on peut que le constater, après chacun...
On peut le constater, voilà. et je crois que ce qu'on voit dans la période qui a précédé la Révolution.
La Révolution, oui.
C'est quand même beaucoup de choses qui sont très proches de ce que nous vivons actuellement, en particulier un surendettement de la puissance publique, la dépendance par rapport à des financiers situés hors des frontières de la France, et des tensions qui finissent par advenir quand la puissance publique présente un problème de solvabilité. Bon, on n'en est pas là encore actuellement, mais je crois que c'est quand même la leçon de l'histoire, c'est que il faut surtout éviter les défauts de paiement de la puissance publique, parce que là, on rentre dans un cycle que plus personne ne maîtrise.
Tout à fait. La Riviera, les bâtisseurs, aux décisions de la Biskine, de M. Pierre Abou. Je vous remercie infiniment pour ce bel entretien, et puis je vous dis à une prochaine fois pour délivrer vous pour ces deux ailes. Merci, à bientôt.
Merci.